Bonjour à chacune, à chacun. Nous avons lu tout à l'heure l'épître de Jude et c'est une épître étonnante. Hein. Il n'y va pas de main morte. Hein. Ça envoie. Et ça surprend. Et je suis émerveillé par l'introduction. Quel sujet de louange pour celui dont le trésor c'est Jésus-Christ. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, eh bien nous trouvons dans le verset 1 cette expression à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardé pour Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de formidable. J'ai été appelé, je suis aimé, je suis gardé. Ça, ça fait vibrer le cœur de ceux qui ont pris Jésus comme leur seul maître et seigneur. Alors, cette épître est dans un contexte, j'ai envie de dire, un contexte religieux un peu troublé, hein. Mais peut-être un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons le paysage christianisé et on se dit, tiens, je ne sais pas trop en quoi on ressemble par exemple aux catholiques. Il y a une racine commune manifestement, mais enfin il semble que notre foi, dans sa profondeur, soit à des années-lumière l'une de l'autre. On regarde aujourd'hui, puisque Jean-Denis nous rappelait que c'est le 500e anniversaire du protestantisme, et on regarde le protestantisme traditionnel 500 ans après ce qu'il est, eh bien, il y a des... ça ne pose plus de problème hein, qu'on ne croit plus en la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Ça ne pose même plus de problème d'avoir des pasteurs qui ne croient même pas forcément en Dieu, tiens. Qui sont athées, pasteurs athées. C'est un concept, hein. On se dit, tiens, mais comment on est arrivé dans un monde christianisé? Pourtant, c'est des églises. C'est des églises. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ces églises pour qu'elles aboutissent à un non-évangile? Voilà, j'ai envie d'appeler ça le non-évangile. Alors l'épître de Jude nous l'enseigne, nous l'explique, nous avertit. Parce que l'église à laquelle il écrit connaît un problème. C'est que à l'intérieur même de la vie de l'église, il y a des personnes qui sont absolument étrangères à la nouvelle naissance, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et seigneur, qui ne sont pas passés par une réelle repentance, mais qui ont adopté un habit christianisé, mais qui ne sont pas des vrais chrétiens. Et pourtant, ils sont là, ils sont actifs, ils prennent la parole, ils œuvrent, et ils commencent à rassembler autour d'eux un auditoire de plus en plus réceptif. Et ici, l'un des soucis de Jude va être de bien faire comprendre aux vrais chrétiens que ces personnes-là qui se sont glissées dans l'église, qui sont parmi elles, sont sur une toute autre planète. Il s'agit de deux groupes de personnes qui n'ont rien en commun spirituellement parlant. Et il le dira, ce sont des personnes qui n'ont pas l'esprit. Elles n'ont pas l'esprit. Les uns ont un précieux héritage dans le Seigneur. Ils ont été appelés, ils sont aimés, ils sont gardés. Et les autres, quels que soient les termes dont on puisse les envelopper, eh bien leur destination, c'est une ruine éternelle, la peine d'un feu éternel, dira-t-il au verset 7, une condamnation écrite depuis longtemps. Alors, Jude écrit, parce que le danger qui est là, c'est le danger de contamination. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, il dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Tout à l'heure, je posais la question, comment des églises, historiquement, ont pu tant dévier et passer de l'évangile au non-évangile? Eh bien, parce que à l'intérieur de ces églises, des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau, mais qui ressemblaient suffisamment à des chrétiens, ont pu évoluer, on leur a donné une place, et puis petit à petit, ils ont semé des choses qui ne sont pas selon l'esprit de Dieu. Alors, Jude a toute une manière de décrire ces personnes-là et nous allons retenir pour le moment une expression que nous trouvons au verset 12, milieu du verset 12 et 13. C'est très poétique. Il dit « Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » C'est cette dernière expression que je veux retenir maintenant, des astres errants. Pour ceux qui regardent un petit peu le ciel, on dit « Tiens, d'accord, il y a notre système solaire, il y a des planètes. D'ailleurs, la nôtre n'est pas un astre errant, c'est un astre qui tourne autour du Soleil, qui a une orbite régulière, qu'il effectue en 365 jours et quart. Et puis voilà, c'est pas un astre errant. Et nous avons Saturne, Pluton, Jupiter, qui n'ont pas les mêmes orbites, mais qui ont leur propre orbite. Mais le même centre. Le même centre. Et puis nous avons les étoiles filantes. Des météorites qui, eux, n'ont pas d'orbite et qui vont tout droit, un astre errant, et qui vont finir par se scratcher quelque part. Parfois, il y a des chutes de météorites. Et là, nous avons une image de celui qui est appelé, aimé et gardé pour Jésus-Christ, parce que c'est quelqu'un qui a trouvé le centre de sa vie. Il a une orbite, et le centre de sa vie, c'est Jésus-Christ. Il tourne, sa vie tourne autour de Jésus-Christ. Mais tant que nous n'avons pas ce centre de Jésus-Christ, l'être humain est un astre errant. Nous le trouvons dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit que jusqu'à ce que nous avons répondu à l'appel du Seigneur, il dit « Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. » tous errants. Alors la première question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est: est-ce que Jésus-Christ est réellement le centre de ma vie? Est-ce que mon existence tourne autour de lui? Amen. La plus belle chose qu'il puisse y avoir, c'est que notre existence tourne autour de Jésus-Christ, parce qu'elle a trouvé un centre, une orbite, et nous ne sommes plus errants. Alors, quand même, on se dit, mais quelle est la différence entre un être humain, puisque nous sommes tous errants, et puis les astres errants que sont ces faux docteurs, faux chrétiens, qui font tant de mal, semble-t-il, dans l'église à laquelle Jude s'adresse. Alors, il y a une référence qui est faite aux anges. Vous avez remarqué, au verset 6, que Jude parle des anges, on va dire les anges déchus. Il dit, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. On peut parler un petit peu plus en détail là-dessus, mais je ne vais pas le faire ce matin. Mais nous savons que Dieu a créé des êtres angéliques, qui avaient une parfaite connaissance de Dieu, qui vivaient dans sa présence. Et Lucifer en faisait partie, c'était même le plus beau, n'est-ce pas? Mais en toute connaissance de cause, à un moment, une partie des anges, connaissant Dieu, vivant dans sa présence, connaissant son caractère, sa nature la plus profonde, ont dit ça nous intéresse plus, ce truc-là. Dieu, on va trouver autre chose. Et voilà comment Lucifer, qu'on appelle Satan, qui est une créature, qui est un ange, s'est rebellé, a fait fracture avec Dieu, et avec lui tout un tas d'êtres célestes. Ici, s'en sont encore d'autres qui sont mentionnés, mais qu'importe, nous voyons que dans la trajectoire d'un ange, parce qu'il connaît Dieu, depuis qu'il a été créé, il est dans sa présence, à son service, il connaît sa personne, son caractère, à un moment, en toute connaissance de cause, il dit, ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Et voilà pourquoi un ange fait un choix ferme et définitif en toute connaissance de cause. Il dit, Dieu, je n'en veux pas dans ma vie. Mais les êtres humains que nous sommes, nous qui sommes tous errants, la différence que nous avons avec les anges, c'est que nous sommes errants, mais nous sommes ignorants. Quand nous naissons, nous n'avons pas vécu dans la présence de Dieu, nous n'avons pas vu Dieu face à face, nous n'avons pas été à son service, nous ne connaissons pas son caractère, nous ne savons pas qui est Dieu. Et chaque être humain, en fait, est séparé de Dieu, ne connaît pas Dieu, mais il est invité à le rencontrer, à le connaître. Et toutes les âmes humaines qui sont des âmes errantes sont invitées à trouver leur orbite autour du centre, Jésus-Christ. Alors, l'histoire d'une âme, l'histoire de nos âmes, à quel moment avons-nous répondu oui à l'appel de Jésus? Tant que nous n'avons pas répondu oui, nous étions errants. Il y en a, c'est tôt dans leur vie, il y en a, c'est tard dans leur vie. Mais il y a tout un travail de cœur qui se fait dans l'âme des gens Et à l'issue de ce travail, il y a un positionnement qui est pris. Romain nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mais dit, mais hélas, une bonne partie des gens répondent à cette bonté qui pousse à la repentance par un endurcissement et un cœur impénitent qui dit non et qui dit non à Dieu et qui finit par dire un non qui ressemble à celui des anges. Un non ferme et définitif. C'est le cas des personnes qu'il est mentionné ici. C'est pourquoi il est dit que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Ça fait longtemps que dans le fond de leur cœur, ils ont scellé cette réponse à l'appel de Dieu en disant non, non. L'autorité de Dieu dans ma vie, je n'en veux pas. Bien sûr, lorsque nous sommes face à nos voisins, à notre famille, à nos amis, aux incroyants, nous ne savons pas où en est quelqu'un. Est-ce qu'ils sont encore des brebis errantes dont le cœur va se tourner vers Dieu dans la repentance, ou bien est-ce qu'ils ont déjà refusé de manière définitive l'appel à la repentance? Nous, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on annonce l'Évangile. Mais Dieu le sait. L'Épître aux Romains nous donne un petit peu un résumé de cette trajectoire. Il dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Nous avons commencé notre texte en disant « À ceux qui ont été appelés. » Comment est-ce que Dieu appelle une âme? Eh bien, l'Épître aux Romains nous dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. » Le Seigneur connaît d'avance, d'éternité, la décision que nous allons donner, le positionnement de notre âme humaine. Est-ce que je vais me positionner par la repentance ou est-ce que je vais me positionner par l'endurcissement ? Et entériner. Et il y a un moment où on entérine. Quand on vient à Jésus-Christ par la repentance, c'est ferme et c'est définitif. Amen. Ça y est, c'est scellé. Notre âme prend une décision ferme et définitive. Seigneur, rentre dans ma vie pour toujours. Ou une décision comme Pharaon, hein, dont le cœur s'endurcit, et qui aboutit à la fin à une réponse, je veux dire, donc c'est réfléchi et bien réfléchi, non, je ne vois pas l'intérêt, c'est non, ça sera non, ça restera non. Non. Alors, là, il y a un souci dans l'église à laquelle je t'adresse. C'est que voilà qu'il y a des personnes qui ont endurci définitivement leur cœur, mais qui ont un vernis christianisé. Ils sont dans l'église et ils prennent part activement à la vie de l'église et ils ont manifestement un côté plaisant. Ils ont un discours qui change. Et même, ils finissent par faire penser à plusieurs dans l'Église que leur différence, leur décalage par rapport aux sentiers habituels, aux sentiers reconnus, traditionnels, ils disent « Ouais, ils sont quand même différents, ils ont un discours différent, ça pourrait apporter à l'Église une pluie bienfaisante des fruits nourrissants. » Et c'est au verset 12, cette comparaison qui nous est donnée avec un verdict sans appel. Il dit « Ce sont des nuées sans eau, des arbres d'automne sans fruits. » On se dit « Tiens, ben nous qui attendions la pluie, regarde, il y a des nuages là, il va bientôt pleuvoir un nuage prometteur de pluie. Et il y a des gens qui, leur discours change et on a l'impression que ça va porter à l'Église, même si ce n'est pas tout à fait ce que dit la Bible, mais ça va faire du bien, ça va booster l'Église, ça va donner un... Voilà, il va y avoir un réveil, une autre vision. Non ? Dieu dit, ce sont des nuées sans pluie. Des arbres d'automne, vous croyez que vous allez trouver dessus des fruits ? Mais il n'y en a pas. Des arbres d'automne sans fruits. Ça a l'air prometteur, ce discours qui change, qui est en décalage de la Bible. Mais ça n'aboutit à rien. À rien de spirituel. À tout de charnel. Et c'est là que Jude, si nous reprenons le verset 3, qui est l'introduction de sa lettre, il dit « Je me suis senti obligé de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Qu'est-ce que c'est que cette foi ? La foi ici, c'est tout l'enseignement relatif à ce que nous devons croire. La foi, c'est croire, n'est-ce pas ? C'est l'enseignement relatif à tout ce que nous devons croire. C'est pour ça que nous appelons ça souvent notre confession de foi. C'est la doctrine. C'est la doctrine d'une Église. Et Jude dit, on veut changer votre doctrine. Il s'est glissé des gens parmi vous qui changent, qui modifie, qui altère la doctrine. Il dit non, et là, va falloir tenir ferme. Parce que si vous touchez à la doctrine, vous touchez à la sanctification. Là, il dit, une saine doctrine produit une vie sainte. Ça, nous devons bien le retenir. Une saine doctrine produit une vie sainte. Mais une doctrine tordue produit le péché et la ruine. Regardez en 2 Pierre 3, verset 16. En fait, l'épître de 2 Pierre est très très parallèle à Jude. En 2 Pierre 3, 16, il est question des lettres de l'apôtre Paul qu'il écrit aux églises, des lettres inspirées que nous avons, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Vous voyez toutes ces lettres qui nous donnent une doctrine ? Ces lettres que parfois vous lisez votre Bible, vous lisez l'Épître aux Romains, vous lisez l'Épître aux Éphésiens, vous dites, il y a des trucs compliqués. Ouais. Et justement, Pierre dit, à propos de Paul, au milieu du verset 15, notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et au verset 16, il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans laquelle il y a des points difficiles à comprendre. Ben, vous voyez, Pierre était d'accord avec vous, il trouve difficile aussi. Hein? Quand vous dites, oh, j'ai trouvé compliqué, Pierre aussi il trouvait compliqué. Mais il dit, il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Comme celui des autres Écritures. Alors, ils ne tordent pas seulement les lettres de l'apôtre Paul, ils tordent aussi le sens des autres livres bibliques. Et ils le font pour leur propre ruine. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Là, nous parlons vraiment de la doctrine, de cette foi transmise au sein une fois pour toutes, de la saine doctrine, et on peut modifier, altérer, faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et voilà comment on se posait la question, mais comment, comment peut-on arriver à une église catholique si différente? Comment peut-on arriver à aujourd'hui une église réformée que le reste-t-il de Jésus-Christ? En tordant le sens des Écritures et en modifiant petit à petit la doctrine. Alors, Jude dit, mais ça s'est produit parce que on a laissé faire et agir dans l'Église des gens qui n'étaient pas réellement sauvés. Alors, deux caractéristiques majeures ressortent justement de ces personnes. La première, nous la trouvons au verset 19. Dans l'expression, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux. Romains 8 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons donc ici des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui s'impliquent dans la vie de l'Église. Alors que les chrétiens, eux, c'est le verset suivant, pour vous, bien-aimés, verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Les chrétiens sont invités à vivre par l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sixième sens. C'est le sens spirituel. L'être humain naturel, c'est un être avec cinq sens et avec une intelligence. Il a des sens physiques, mais son sens spirituel est mort. Et lorsque nous trouvons Jésus-Christ comme centre de notre vie et qu'il devient, nous sommes sur orbite, Dieu nous donne son esprit. Il nous donne le Saint-Esprit et nous avons l'Esprit de Dieu et ce sixième sens qui nous permet de comprendre les choses qui concernent l'âme, qui concernent le péché, qui concernent la repentance, qui concernent la sanctification, qui concernent la communion avec Dieu. Mais l'homme naturel, ce sixième sens du Saint-Esprit, il ne l'a pas. Alors, il raisonne, il philosophe. Mais la seule chose que ça lui permet, c'est d'être un astre errant. On peut raisonner et philosopher, mais on n'a pas le sens spirituel, on n'a pas l'esprit. On n'est pas connecté à celui qui nous a créés, on n'est pas connecté à l'auteur de tout ce qui existe, à l'auteur de notre vie. Alors comme on n'est pas connecté, on est un astre errant qui philosophe et qui raisonne et qui se scratchera dans les ténèbres éternelles, nous dit le verset. Quel dommage. Prenons Jésus-Christ comme centre de notre vie. Disons oui à l'appel de Dieu. Et alors le Saint-Esprit nous est donné. Amen. Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu? Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit et vous pouvez vivre par le Saint-Esprit, prier par le Saint-Esprit, agir par le Saint-Esprit. Vous serez en orbite. La deuxième chose, alors, avant de dire cette deuxième chose, on peut se demander, bah alors, les hommes dont il est question dans ce chapitre, quelle est leur orbite à eux? Eh bien, leur seul centre, c'est leur propre personne. Tout tourne autour d'eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes, Et ça, ça doit nous alerter. Quand ma vie ne tourne pas autour de Christ, elle tourne autour de moi-même. Et c'est vrai pour nous chrétiens. Lorsque nous cessons que notre vie, que le sens de notre journée, notre objectif, quand ça ne tourne plus autour de Jésus-Christ, ça tourne autour de moi-même. Et je suis un astre errant, je suis, entre guillemets, ma propre orbite, je tourne sur moi-même. Alors, bien sûr, on voit dans les caractéristiques des personnes qui tournent autour d'elles-mêmes, du coup qui provoquent des divisions, verset 19, qui marchent selon leur convoitise, on va y revenir, des personnes qui sont des gens qui murmurent, verset 16, qui se plaignent de leur sort. Vous savez, quand notre vie tourne autour de nous-mêmes, on n'arrête pas de se plaindre. On n'arrête pas de murmurer, c'est-à-dire de râler, de contester. On admire des gens par motif d'intérêt. Enfin, tout tourne autour de nous-mêmes. Quelle est mon orbite ? Est-ce que je tourne autour de moi-même ou est-ce que le centre de ma vie, c'est Jésus-Christ ? Il y a une expression assez qui peut nous paraître dure au verset 10. Regardez le verset 10. Il dit au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Cette expression naturellement comme des brutes, en grec, c'est l'homme naturel animal. L'homme naturel animal. Qui vit dans ses instincts, en fait. Et l'homme naturel animal que nous sommes tous, au départ, ben, mon objectif de vie, c'est d'obtenir ce que ma personnalité me réclame. L'animal sont les instincts, nous on est un peu plus évolué, alors on va parler de personnalité, mais ma personnalité, ma petite personne, ma personnalité, me réclame des tas de choses. Et ben, mon objectif, c'est de satisfaire ce que ma personnalité me réclame. Et voilà pourquoi une autre expression, c'est « ils marchent selon leur convoitise ». C'est quoi les convoitises ? Mais c'est ce que j'ai envie, voilà, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que ma personnalité me réclame. C'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai envie, et puis voilà. Voilà, on va vivre comme ça. Hein. Pourquoi vivre autrement ? La vie tourne autour de moi-même. Ça me fait plaisir. L'objectif de l'homme connecté à l'Esprit de Dieu, c'est pas du tout ça. En 1 Corinthiens 10, 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mon objectif dans ma journée, c'est pas de donner à ma personnalité ce qu'elle réclame et de la satisfaire. Mon objectif, c'est de satisfaire Dieu. Mon objectif, c'est d'honorer Dieu par ma vie. Et nous voyons donc deux orbites totalement à l'opposé, deux centres totalement à l'opposé. Soit Christ est le centre et je fais tout pour la gloire de Dieu, soit je suis mon propre centre et je fais tout pour ma satisfaction et moi-même. Très souvent avec un beau vernis généreux pour les autres, mais ma vie tourne autour de moi-même. Alors, en quoi ça a à voir avec la doctrine ? Et nous terminerons par là. D'abord, nous l'avons dit, attention à la contamination. Nous vivons dans un monde où Satan n'aime pas la saine doctrine, il n'aime pas les personnes dont le centre de la vie, de leur vie, c'est Jésus-Christ, et qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ. Il est dit, ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, attaqués. Alors, est-ce que peut-être je me reconnais dans certaines caractéristiques ? Est-ce que je finis par être quelqu'un qui murmure, qui me plaint de mon sort, qui marche dans mes convoitises, qui tourne sur moi-même ? Mais revenons à la doctrine. Quand on vit pour soi-même, et qu'on vit quand même dans une église, le problème, c'est qu'à un moment, la saine doctrine ne va pas me permettre de vivre pour moi-même selon mes convoitises, à ma manière, comme je veux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à changer la doctrine pour que la doctrine s'accorde avec ma manière de vivre. C'est pas ma manière de vivre qui va s'accorder avec la saine doctrine du Seigneur, c'est la doctrine que je vais adapter à ma manière de vivre, et le tour est joué. Voilà pourquoi il y a simplement 2 ans, l'Église protestante a entériné le mariage homosexuel, etc. On adapte la doctrine à la manière de vivre dont on a envie de vivre, et puis c'est tout. Comment ? On tord les choses, on modifie. Là, Jude appelle cela au verset 4. Il dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. L'idée est très, très simple. Il dit, mais attends. Mais Dieu, il pardonne. Dieu, il a tout pardonné. Il a tout pardonné sur la croix. Il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Vis comme tu veux. Il a tout pardonné. Vis comme tu veux. Paul disait, vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Il dit, de toute façon, pour que la grâce de Dieu se manifeste énormément, péchons beaucoup, comme ça il y aura beaucoup de grâce. C'est tordu, hein ? Ça, c'était l'épître aux Romains. Des gens qui disaient, tu sais, plus tu vas pécher, et plus Dieu aura l'occasion de te faire grâce. C'est formidable. Hein ? Formidable, hein ? Non, c'est pas formidable. Et voilà comment on peut vivre en disant, mais Dieu est amour. Dieu est amour, il comprend. Tu as tel travers, tu as tel truc. Dieu n'est pas là à te juger. Il n'est pas là pour te frapper dessus. Vis comme tu penses. Fais de ton mieux. Seigneur, il te pardonne. Il te comprend. Voilà comment on change la grâce de Dieu en dérèglement ou en dissolution. Une vie dissolue, du coup. On peut adapter la doctrine d'une église à notre manière charnelle de vivre. Et c'est pourquoi nous devons être particulièrement vigilants en disant, c'est pas ma compréhension de la Bible qui doit s'adapter à ma manière de vivre, c'est ma manière de vivre qui doit se conformer aux Écritures, à la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Souvent on dit, oh, la doctrine, c'est des trucs compliqués. D'ailleurs, même Pierre le dit que c'est compliqué. On laisse ça au pasteur. Non. La doctrine, c'est une question pour chacun d'entre nous. C'est important de savoir, de connaître la pensée de Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous la comprenions, pour que nous entrions dedans de plus en plus, pour que nous nous attachions aux Écritures, pour ne pas être justement ballotté à tout vent de doctrine, c'est l'épître aux Éphésiens. Sinon, on nous dit un truc et puis on est convaincu parce que de toute façon, nos racines, il n'y en a pas. Nos racines dans la foi, nos racines dans la saine doctrine. Nous avons négligé l'enseignement de la parole, nous avons négligé son étude, nous avons négligé d'y réfléchir sérieusement, et du coup on est vite emporté, balayé, convaincu par quelqu'un qui va avoir un discours plaisant, hein, arbre d'automne, une nuée bienfaisante avec sa pluie, du pipeau quoi. Mais on va tomber dans le panneau, et c'est triste, hein, de voir dans le paysage chrétien, français, européen, mondial, des églises, des gens qui sont christianisés, mais qui sont des astres errants. Jésus-Christ n'est absolument pas le centre de leur existence, il n'est pas leur sauveur, il n'est pas leur seigneur, il n'est pas celui qui règne, ils ne sont pas passés par la repentance. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous n'avons pas fouillé. Vous allez me dire, tiens, c'est quoi la voix de Caïn, l'égarement de Balaam et la révolte de Corée? Pour en parler longuement, pas trop rallongé, mais la voix de Caïn. Je viens à Dieu en apportant la bonne personne que je suis. Comment est-ce que ces personnes rentrent dans l'église sur un malentendu? Elles disent, mais Dieu, c'est un type bien Dieu. Dieu, c'est un type, il a de l'amour, il fait le bien, il est généreux. Il est comme moi, tiens. On devrait bien s'entendre. On devrait bien s'entendre parce que je crois que je lui ressemble. On est dans le même camp. On est dans le même camp, on est dans le camp du bien. On devrait bien s'entendre, Dieu et moi, parce que, ouais, c'est voilà, il est contre le mal et tout. Moi, pareil, hein. Et moi, je suis quelqu'un de généreux. J'aime les autres. Tout ça. Enfin, je crois qu'on va bien s'entendre avec Dieu. Mais c'est un profond malentendu. Ça, c'est la voie de Caïn. C'est venir dans une église et devenir soi-disant un chrétien en croyant avoir trouvé. Être au milieu des gens bien, quoi. Et Dieu lui dit, ben, le problème, c'est que quand tu viens, non, c'est pas ça. Il va falloir d'abord que tu reconnaisses que tu es quelqu'un de pourri. Ah. Il y a un malentendu. Dieu dit, non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de pourri par le péché. Il va falloir passer par la repentance. Et Caïn, il a eu du mal à digérer ça. Il ne l'a pas digéré d'ailleurs. Hein. Alors, soyons vigilants. Et tâchons de veiller les uns sur les autres. Au verset 22, il dit « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Pour d'autres encore, il y a une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il ne s'agit pas de rejeter les gens, il s'agit d'être vigilant, de veiller les uns sur les autres, de se parler avec vérité, de reprendre peut-être en disant, attends, là, je crois que tu vas dans une mauvaise direction, là, je crois que tu vas dans une doctrine qui va te faire du tort, c'est pas ce que dit la parole. Prenons soin les uns des autres, soyons attachés à la parole, combattons pour la foi transmise au saint une fois pour toutes. Et je terminerai sur un beau verset, c'est le verset 24. Un verset d'encouragement, un verset de louange. Judas a commencé en disant, vous êtes appelés, aimés, gardés. Et le verset 24 dit, à nous qui vivons dans ce monde compliqué, ce monde religieux compliqué, il dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Dans l'allégresse. L'allégresse est au bout du chemin. Amen. Prions. Seigneur, c'est une lettre forte que tu nous as donné en héritage, nous voulons y être attentifs, être vigilants, prendre au sérieux les avertissements qui y sont, veiller sur nous-mêmes. Seigneur, aide-nous ce matin à nous poser la question, est-ce que ma vie tourne autour de moi-même ? Ou est-ce que ma vie tourne autour de Jésus-Christ ? Que nous puissions répondre avec sincérité à cette question. Quand je me lève le matin, est-ce que ma vie tourne autour de Jésus-Christ ? Ou est-ce qu'elle tourne autour de moi-même ? Aide-nous, Seigneur, à répondre avec autant de sincérité à l'autre question, est-ce que je suis rempli de l'Esprit ? Tu nous as fait le don de l'Esprit, Seigneur. Quel dommage si nous le négligeons, si nous ne vivons pas par l'Esprit, mais si nous vivons simplement par nos sens de l'homme naturel animal. Seigneur, que nous puissions vraiment chaque jour nous lever en disant, Seigneur, c'est par ton Esprit que je veux vivre ma journée aujourd'hui. Donne-moi ce sixième sens spirituel. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés. Parce que tu nous aimes. Nous sommes aimés du Père. Quelle chose formidable. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu peux nous préserver de toute chute. Et merci parce que tu peux nous faire arriver au bout du chemin dans l'allégresse. Merci Seigneur pour la joie que tu donnes et que toi seul peux donner. Que nous puissions, Seigneur, le vivre pleinement, ne pas nous en priver. Au nom de Jésus. Amen.